sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Vous êtes à l'émission Sporama sur notre chaîne donc. Comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont là pour vous apporter tout l'éclairage nécessaire. Nous saluons tout de suite Élisée Nkpatine depuis Boïkon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Yakuba et bienvenue au Bénin.
Merci. Avec nous également le doyen Jules Valentin Ngoué en direct depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yakuba, bonsoir à tous.
Nous parlons ce soir de la Coupe du Monde de Basketball 2023. Nous allons aussi parler de la dernière journée des éliminatoires de la prochaine CAN qui va se disputer en janvier et février prochain à Abidjan. Vous le savez également, Salif Keïta, l'ancien international malien, n'est plus depuis samedi. Que retenir du joueur, de l'homme et de son héritage? Nous en parlons dans Sporama ce soir. En attendant, en tout cas, merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Basketball donc, pour commencer avec le mondial masculin en Indonésie, au Japon et aux Philippines. On connaît les affiches des quarts de finale qui commencent dès demain mardi. La Lituanie affronte la Serbie, l'Italie fait face aux États-Unis et puis mercredi, l'Allemagne défie la Lettonie et le Canada joue contre la Slovénie. Élisée, je commence par vous. En tout cas, on peut s'attendre à de très belles oppositions.
Oui, bon, c'est forcément de très belles oppositions. Eh bien, l'inquiétude aujourd'hui, ce sont bien sûr les Américains qui se sont fait battre lors de leur dernière rencontre. C'était face à la Lituanie 110-104. Bon, ça a été une contre-performance qu'on ne s'y attendait pas du tout. Donc, on attend la réaction des champions olympiques face à une équipe modeste d'Italie qui a souvent l'habitude de créer la surprise. Donc, attention à ces Italiens, sinon... Les cadors, en tout cas, les favoris ont répondu présent. La Lituanie et bien sûr la Slovénie. La Slovénie très attendue avec sa star que vous connaissez très bien, qui a été champion de la NBA cette saison. Donc, Nogic est bien sûr attendu. Eh bien, les Espagnols quand même vont bien sûr manquer ces quarts de finale. Il faut dire puisque c'est la grande surprise, les champions du monde ne seront pas présents pour ces quarts de finale. C'est un peu la grande surprise. Donc une chose est sûre, les Américains sont là pour remporter le trophée, mais attention puisqu'il y a la Lituanie et bien évidemment la Slovénie.
La Slovénie de Nikola Jokic, Élisée le disait. L'Afrique n'a pas pu se sortir d'affaire dans la première phase de groupe. Toutes les équipes africaines ont fini troisième, alors que seules les deux premières équipes se qualifiaient pour la deuxième phase de groupe. Alors, Jules, la belle opération quand même est à mettre à l'actif du Soudan du Sud, qui pour son premier mondial finit meilleure équipe africaine, 3 victoires, 2 défaites, et représentera l'Afrique aux prochains Jeux Olympiques de Paris 2024.
Oui, la palme d'or revient au Soudan du Sud pour ce premier essai et cela peut surprendre ceux qui limitent leur analyse en tenant compte du caractère récent et douloureux de la naissance de ce jeune État. Alors on se demande par quel miracle ce pays a réalisé la meilleure performance africaine. Mais ici, on se penche sur l'histoire du basketball africain et mondial. On va se rendre compte que le Soudan en général et le Sud-Soudan en particulier a été un des foyers les plus importants d'exportation de joueurs de dimension mondiale à l'extérieur. Et on se rappelle par exemple qu'en NBA, dans les années 80-90, le Soudan avait un représentant très valable dans ce championnat de très haut niveau, ainsi que la RDC. Les pays comme le Sénégal, le Nigeria, le Cameroun ne venant que dans un passé très récent ou alors actuellement. Alors on peut le dire, bon, ça ne saurait mentir.
Voilà, Amin Birouk revient sur l'apport de Luol Dieng, souvenez-vous, ancien joueur sud-soudanais de la NBA, à cette équipe du Soudan du Sud.
Tout d'abord que ce pays, nouvellement indépendant, a su fédérer autour de son président de fédération, l'ex-joueur NBA, Luol Dieng, pour pouvoir avoir les meilleures potentialités du Sud-Soudan. Et on a pu le constater puisqu'ils sont venus d'horizons divers, ils exercent aux États-Unis, en Australie, en Europe, et on les a vus réellement au niveau du Gotha mondial. 3 victoires pour 2 défaites et surtout le succès lors du match barrage contre l'Angola, elle est alliée à la défaite de l'Égypte contre la Nouvelle-Zélande qui permet au Sud-Soudan d'être la meilleure nation africaine au classement général de la compétition et donc de se qualifier pour les JO de Paris. Les JO de Paris 2024 où la marge de progression des Soudanais ou des Sud-Soudanais sont encore plus visibles. Beaucoup de solidarité, beaucoup d'hargne, beaucoup de volonté et évidemment beaucoup de réussite au moment des choix décisifs, notamment en toute fin de rencontre. Le Sud-Soudan a bien mérité sa place, il sera notre porte-drapeau lors du tournoi de basket à Paris 2024.
Alors, Élisée, les autres représentants africains, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Angola et le Cap-Vert, ont aussi eu le mérite, il faut le dire, d'arracher au moins une victoire dans ce mondial de basketball, ce qui est aussi historique.
Bien évidemment, surtout pour le Cap-Vert qui en était à sa toute première participation, et tout comme le Soudan, bien évidemment, le Soudan qui a fait forte sensation, on ne reviendra pas là-dessus puisque c'est pratiquement la meilleure sélection africaine durant ces 2 dernières années, vu la dernière Coupe d'Afrique des Nations de basketball et aussi durant les éliminatoires, le Cap-Vert aussi a commencé par progresser, avouons-le, ainsi que la Côte d'Ivoire qu'on a vu lors de la dernière Afro-Basketball qui a séduit plus d'un jusqu'à aller en finale, vous imaginez. Donc, ce n'est qu'une continuité du travail abattu par les différents pays qui continuent d'être remarqués sur le plan mondial. C'est vrai que le niveau n'y est pas encore puisque aucun pays africain ne s'est qualifié pour les quarts de finale. Donc, prochainement, il faudra travailler dur pour avoir une équipe très compétitive après de titiller les grandes nations de la balle au panier.
Football à présent avec la 6e et dernière journée des éliminatoires de la prochaine CAN qui se dispute en janvier-février 2024 à Abidjan. Si certaines équipes ont déjà leur sort connu, qualifiées ou pas, il y en a d'autres. Il y a d'autres rencontres, disons, à enjeu et c'est le cas du groupe I où tout est encore possible. La Mauritanie affronte le Gabon et la République démocratique du Congo joue contre le Soudan. Alors Jules, officiellement, aucune équipe de ce groupe n'est qualifiée, mais aussi aucune n'est éliminée non plus.
Bien sûr, ça c'est vraiment la bouteille à l'encre entre la Mauritanie, le Gabon d'une part, puis le Soudan et la RDC d'autre part. Alors ce sera un véritable match, disons une véritable guerre de tranchées entre Gabonais et Mauritaniens qui se rencontrent à Nouakchott alors que le Gabon, par exemple, est desservi par le contexte politique que nous connaissons à l'heure actuelle et sa préparation est de ce fait-là perturbée. Mais sur le plan strictement sportif, les forces en présence s'équilibrent. Les Mauritaniens viendront surtout en évoluant à domicile avec leur traditionnel bloc défensif imposant et pourront se permettre de contre-attaquer parce que leur équipe peut se contenter d'un nul alors que les Gabonais sont obligés de ramener une victoire. Alors côté Gabon, on compte tout de même sur la capacité de l'équipe à bouger et se bloquer au sol avec son jeu vif et également sur la forme actuelle d'Aubameyang qui s'est refait une santé à Marseille. Et de plus, on le sait, le Gabon aime souvent surprendre en gagnant à l'extérieur. Donc c'est du 50-50. Pour l'autre match, le Soudan du Nord est défavorisé par sa situation politique, la guerre qui sévit là-bas. Et les joueurs joueront à l'extérieur, n'auront sûrement pas le mental qu'auront les Congolais pour défendre leur acquis parce que le Congo vient de loin. Alors il ne peut pas laisser passer cette occasion. Un seul nul lui suffit.
Alors, Jules, je reste avec vous. Rencontre aussi à enjeu dans le match Cameroun-Burundi à Garoua dans le groupe C. Les Lions indomptables peuvent se contenter du nul pour voir Abidjan avec, je le rappelle, sans André Onana, leur portier dans le but.
Oui, il faut dire que ne serait-ce que la sélection de départ a vraiment ramené tous les joueurs en forme du moment, y compris le gardien Onana. Alors, les Lions indomptables qui se sont laissés surprendre dans leur double confrontation contre la Namibie en ne prenant qu'un seul point sur 6 sont dos au mur et ils vont probablement allier une équipe en 4-3-3, une équipe constituée de joueurs particulièrement en forme actuellement. Le capitaine Aboubakar est en train de se refaire une santé en Turquie. Mbeumo, l'attaquant de Brentford, est en grande forme. Il marque et c'est un centreur redoutable. Et nous avons Jay Clinton qui marque aussi de nouveau en Russie. Et Toko Itambi qui a atterri en Arabie Saoudite, donc qui a l'esprit un peu plus tranquille. Et Choupo-Moting qui est enfin rétabli physiquement. Donc, avec l'activité de leur milieu de terrain, et où on retrouvera Umgued, Zambo Anguissa et surtout le jeune Marseillais et Mougue, les artificiers de l'attaque auront des munitions, et c'est sûr. Bon, et surtout que le match se joue sur les terres de Vincent Aboubakar à Garoua. Donc, ça, c'est une rencontre au sommet à suivre.
Alors, Élisée, il y a aussi ce match au sommet hein, entre le Mozambique et le Bénin dans le groupe L, celui du Sénégal déjà qualifié et du Rwanda éliminé. La deuxième place qualificative hein, pour Abidjan se joue donc entre le Bénin et le Mozambique.
Et bien évidemment, un match qu'il faut gagner à tout prix, un côté Guépa, côté béninois, puisque là, le Bénin a 2 points de retard hein, sur les Mozambicains qui vont jouer encore à domicile, vous imaginez. Et la seule chose hein, qu'il faudra faire, Guénot Roll l'a dit cet après-midi pour la première séance d'entraînement qu'il a dirigée, c'est vrai qu'il y aura des absents, notamment Tosin Ayegun, le néo-lorientais transfuge hein, du club suisse, le FC Zurich, du côté de la France, du côté de la Bretagne, bien sûr, Lorient. Il a joué ce week-end hein, en championnat, 30 minutes seulement, puis il s'est blessé. Donc, il ne pourra pas se déplacer. Il a déclaré au forfait. Donc, c'est un coup dur pour l'attaque béninoise. Guénot Roll l'a dit cet après-midi, il ne faudra pas trop mettre la pression sur les Béninois, puisque l'objectif de départ, c'était connu, puisque quand la fédération s'est achetée les services du technicien franco-allemand, l'objectif, c'était de jouer à fond les éliminatoires de la Coupe du Monde, puisque là, c'est ce que le gouvernement veut. Donc, il faudra accompagner le gouvernement dans ses ambitions. Donc, la CAN de 2024 pour la Côte d'Ivoire n'était pas tellement au rendez-vous, puisque, on le sait tous, le Bénin a connu de retard dans les confrontations, puisque déjà, lors des 2 premières journées, le pays s'est fait battre par le Sénégal et par le Mozambique à domicile. Après, il y a eu ces deux nuls hein, contre le Rwanda. Heureusement qu'il y a eu victoire sur tapis vert. Donc, le Bénin s'est totalement relancé. Donc, il faudra assurer une fois à Maputo. À Maputo, ça va être un match très, très, très difficile. Les Béninois vont vouloir remettre la monnaie de leur pièce au Mozambicain qui est venu les battre ici, bien sûr, à Cotonou. Ça va être très, très difficile. Une chose est sûre, le Bénin va jouer à fond, comme l'a dit Guénot Roll cet après-midi. Donc, on attend une victoire, puisque pour se qualifier, le Bénin n'a autre choix que de battre les Mozambicains, alors que chez eux, ils se contenteront d'un nul pour valider leur qualification en Côte d'Ivoire.
Et justement, dans ce même groupe, les Lions de la Teranga hein, affrontent le Rwanda dans un match à polémique, nous dit Amdinsi.
Vous avez raison, Yacouba. Il y a eu beaucoup de polémiques hein, autour de cette rencontre entre le Rwanda et le Sénégal, surtout concernant le lieu. Ce sera finalement au Rwanda et le Sénégal va déplacer une équipe à prime. Cette équipe sera d'ailleurs coachée par le duo Pape Tchaou et Malik Daf, l'entraîneur de l'équipe nationale locale qui a gagné le Chad et l'entraîneur des U20 qui a également gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Pour revenir à la polémique, Yacouba, tout est parti hein, des échanges épistolaires hein, aigres doux entre les deux fédérations, car on se rappelle que le Rwanda avait accepté de recevoir le Sénégal au stade Abdoulaye Wade, car les Rwandais avaient un problème d'infrastructure en ce moment et ils ont décidé de jouer le match aller à Dakar. Donc ils ont obtenu un accord de principe avec les dirigeants de la Fédération sénégalaise de football. Mais entre-temps, les responsables du football sénégalais ont ficelé un match amical de prestige contre l'Algérie. Et cette nouvelle donne a poussé les fédéraux du Sénégal à écrire à la partie rwandaise pour que ce match se joue à Dakar. Une demande rejetée par la Fédération rwandaise. Donc, il y a eu donc cette polémique. Et les dirigeants du football sénégalais ont écrit à la CAF pour arbitrage, mais entre-temps, il y a eu des médiations et le Sénégal a décidé quand même d'aller jouer ce match à Rwanda, mais en déplaçant son équipe à prime. D'ailleurs, les deux coachs ont déjà convoqué les joueurs de l'équipe nationale locale et les joueurs de l'équipe nationale U20. Donc, c'est vraiment regrettable ce qui s'est passé, mais ça s'est passé comme ça.
Voilà, Amdine Sy, le directeur technique et national de la Fédération sénégalaise de football, explique justement pourquoi son pays va aligner une équipe à Prine. Maya Sinma.
C'est vrai qu'aujourd'hui, les Rwandais peuvent attendre à une équipe du Sénégal composée de Sadio Mané, mais ce sera une équipe nationale du Sénégal qui sera présente. C'est ça qui est le plus important. Quels sont les joueurs qui y seront? C'est pas important. Le Rwanda jouera. Est-ce que nous, on s'intéresse à aux joueurs des Rwandais? Non. C'est une équipe du Rwanda qui sera en face de nous. Maintenant, pour dire simplement que la raison principale aujourd'hui, c'est que notre politique de progression de nos joueurs et également aussi de préparation de nos joueurs dans la compétition, elle est importante. Et aujourd'hui, quand on a une bourse proposée de ce genre, je pense qu'on s'y engage tout de suite. Le résultat, il est déjà fait. Parce que nous sommes déjà qualifiés contre une équipe qui est éliminée. Donc, c'est un match qui n'a pas d'enjeu, en réalité. Mais pour lequel le résultat est important, parce qu'en fait, nous n'y allons pas avec des armes à la baisse. Non. Nous allons pour jouer un match de qualification pour la sixième journée. Je crois que ça, c'est important. C'est pas parce que nous avons pris ce groupe-là pour aller simplement pour meubler. Non, on ne meuble pas. On va dans la compétition. Maintenant, c'est vrai, les relations entre le Sénégal et le Rwanda, je ne pense pas, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas obligés quand même de dire effectivement que nous allons amener tel jour. On aurait pu y aller sans Sadio Mané, ni Kalidou, ni extra, extra. On aurait pu y aller. On n'est pas forcé de les amener parce que simplement les Rwandais veulent les voir. Si les Rwandais veulent nous voir, peut-être qu'on aura l'occasion d'organiser un match de gala où effectivement on sera à Dakar ou à Kigali et pour le jouer. Et on aura tous les stars de l'équipe pour jouer.
Maya Sinma, directeur technique national de la Fédération sénégalaise de football, les Lions de la Teranga A, se préparent pour un match amical le 12 septembre contre l'Algérie. Un match au parfum de revanche, selon Amdine Sy.
Ce match amical Sénégal-Algérie, prévu le 12 septembre au Stade Abdoulaye Wade, tient à cœur à Aliou Cissé, raison pour laquelle il est resté à Dakar. Il a zappé le déplacement de Kigali pour pouvoir préparer ce match avec ses poulains. Puisque ce match est très important, car il met aux prises les deux derniers vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est une rencontre amicale, certes, mais c'est une rencontre de prestige qui aura un parfum de revanche pour les Lions du Sénégal qui ont été battus par les Fenecs lors de la finale de la CAN 2019 qui s'est disputée sur les bords du Nil. L'Algérie avait même battu le Sénégal en match de poule également. Donc Sadio Mané et ses partenaires feront tout quand même pour battre cette équipe de l'Algérie, du coup prendre leur revanche, mais connu sur leur lancée après leur succès éclatant face au Brésil en match amical. C'est la raison pour laquelle Aliou Cissé est resté à Dakar avec les cadres, mais ce ne sera pas facile. Yacouba.
Autre match en jeu, Ghana-Centrafrique. Les Black Stars, leader de leur poule, ont besoin d'un nul pour se qualifier. S'ils perdent la rencontre, la République centrafricaine se qualifierait pour la première CAN de son histoire. Scénario beaucoup plus compliqué dans le match entre le Congo, bien sûr, et la Gambie. Les Congolais doivent s'imposer à l'extérieur face aux Scorpions, quart de finaliste, il faut le rappeler, de la précédente édition. Pour espérer donc voir Abidjan, le Maroc, lui, joue son dernier match des éliminatoires contre le Libéria avant une rencontre amicale contre le Burkina Faso. Amine Birouk.
Il faudra que l'équipe du Maroc se réunit pour la première fois depuis les dates FIFA du mois de juin. Pas moins de 12 joueurs ont disparu des tablés du sélectionneur Walid Regragui, qui était mécontent du rendement de certains réservistes, puisqu'il avait laissé de côté 6 joueurs ayant l'âge olympique à la disposition de la sélection U23 qui organisait la compétition qualificative pour les Jeux de Paris. Il y a Hakim Ziyech qui manquera l'appel lors de ce stage préparatoire et lors de ces deux rencontres contre le Libéria en match officiel et devant le Burkina Faso à Lens en rencontre amicale. Et comme vous pourrez le constater, ce qui est certain, c'est que cette équipe du Maroc va retrouver ses forces vives avec l'ossature de la Coupe du Monde. Les jeunes évoluant en équipe nationale U23 qui ont été les plus méritants. Et vous remarquerez qu'il y a deux mondialistes, Bilal Khenous et Abdeslam Zezouli. Abdeslam, l'ex-joueur du Barça, est actuellement enrôlé sous les rangs du Betis Séville. Et puis, il ne faut pas oublier l'incorporation de Amin Adli, le joueur du Bayer Leverkusen, qui change de nationalité sportive et qui quitte le giron des sélections nationales françaises pour rejoindre son pays d'origine. Amin Adli, qui n'est autre qu'un des meilleurs éléments du Bayer Leverkusen la saison dernière. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un état d'esprit positif dans cette équipe. Et d'ailleurs, à une des questions posées à Walid Regragui par rapport à son style de jeu défensif, il a rappelé qu'il ne dérogerait pas à ce style qui fait, figure d'identité de cette équipe du Maroc. Ce qui avait manqué peut-être contre le Cap-Vert et l'Afrique du Sud au mois de juin dernier, c'était un peu l'état d'esprit. C'est cet état d'esprit qu'il souhaite retrouver dans son groupe avec un premier rendez-vous samedi prochain contre le Libéria Agadir avant le déplacement amical contre les étalons mardi 12 septembre à Lens, au nord de la France.
Je vous le disais en début d'émission, Salif Keïta, ancienne gloire du football malien et africain, est décédé samedi dernier à Bamako à l'âge de 76 ans. L'annonce a été faite par le ministre malien chargé des sports sur place dans la capitale malienne, justement notre correspondant Siaka Traoré.
Dès son jeune âge, Salif Keïta s'était fait remarquer parmi les autres jeunes de son quartier à Olofobougou, au centre de Bamako, ce qui aura permis au premier ballon d'or africain de jouer d'abord à l'AS Real de Bamako, puis au stade malien de Bamako. Deux clubs du Mali, celui-là même qu'on appelle Domingo, jouera ensuite dans deux clubs de France, notamment l'AS Saint-Étienne et l'Olympique de Marseille, puis au Portugal, en Espagne et aux États-Unis. À chaque fois dans l'équipe nationale du Mali, Salif Keïta créait toujours la différence. Yaoundé 72, l'année où le Mali a disputé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun face au Congo, restera une date inoubliable. Salif y était. Le décès du premier ballon d'or africain a été perçu comme un choc par le peuple malien en général et le monde du sport en particulier. Dors en paix, Domingo. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
Merci Siaka. Alors Jules, vous avez eu le privilège de rencontrer Salif Keïta. Qu'a-t-il apporté au football africain et que retenez-vous de lui?
Oui, Yacouba, je peux dire qu'on a eu ce privilège pendant un regroupement préliminaire de joueurs de l'équipe nationale minime cadette. Et à ce moment-là, Salif était venu rencontrer l'Oryx de Douala, champion en titre en Afrique. Et le Real de Bamako, à cette occasion, allait balayer le grand Oryx par 4-2. Bon, mais ce qu'on peut retenir vraiment du talent de ce grand joueur, c'est qu'il avait une panoplie technique incomparable. On l'a surnommé Panthère Noire, Pelé Africain, et c'était mérité. On se rappelle encore de ses déboulés sur le flanc gauche de l'attaque, de ses dribbles qui laissaient les défenseurs au garde-à-vous, un peu à la Osei Kofi, Petit Sori ou Baba Yara. Mais afin que peut-être nos auditeurs actuels ne croient que ce soit juste, une sorte de souvenir enjolivé par les anciens, je peux leur dire qu'à cette époque-là, Salif et tous les autres allaient en Europe pour renforcer les équipes et les amener plus haut. Alors qu'actuellement, nos joueurs qui vont en Europe sont reformatés. Et on attend de voir quelques-uns qui vont percer. Mais là, on était réellement un renfort pour les équipes européennes et Salif Keïta est un de ces exemples. Vraiment, merci l'artiste et que la terre soit légère.
Merci à vous, Jules Valentin Ngoué. Autre discipline à présent, la capitale, béninoise va abriter à partir de vendredi, la 50e édition des championnats du monde de pétanque. Alors, Élisée, très rapidement, dites-nous davantage sur cette compétition.
Merci beaucoup Yacouba, ce sera au pied de l'Amazone puisque la compétition devrait se jouer dans un grand boulodrome couvert, mais la particularité au Bénin, puisque les travaux ont connu de retard, ce sera un autre boulodrome ouvert et pratiquement qui va accueillir plus de 40 délégations. Le Bénin à la recherche de son premier trophée mondial puisque le Bénin a été longtemps vice-champion du monde, donc vous imaginez, ce sera une grande fête et au bord de l'océan, vous imaginez. Donc, tout est fin prêt. L'a indiqué hier le ministre des Sports. Le Bénin est prêt pour accueillir ce grand événement, puisque le Bénin a organisé une grande compétition de ce niveau-là. Donc, suivant vendredi prochain, pour le lancement du but, comme le dit, le lancement du cochonnet. En tout cas, les auditeurs qui aiment cette discipline sur VOA Afrique seront bien servis, seront informés en temps réel.
Merci Élisée. En tout cas, on compte sur vous. C'est ici que nous refermons ce numéro de Sporama. Merci à vous, je le dis encore, Élisée Mkwatine depuis Boïcon au Bénin, Amine Birouk depuis Casablanca au Maroc, le doyen Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon et bien sûr Amdine Sy à Columbus dans l'Ohio ici aux États-Unis. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Georges Léonard Sagno. Je suis Yacouba Ouédraogo. On se retrouve la semaine prochaine, mais dans quelques secondes, vous aurez une nouvelle édition du journal avec votre journaliste incontournable, Jean-Roger Bignon. Au revoir.